Bonjour à tous. C'est une grande joie de pouvoir vous revoir après 5 mois d'absence. Et puis j'en profite bien parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous promet en matière de confinement et de reconfinement et de confinement partiel. Donc je me remplis mes yeux de vos visages. Donc on va prendre le livre d'Ésaïe. Notre texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 33. On va étudier le chapitre en entier. Alors, comme le livre d'Ésaïe est un chapitre qui n'est pas, je dis pas compliqué, mais c'est un chapitre prophétique, donc avec un style parfois un petit peu perturbant, si je puis dire. On va prendre notre temps. On va d'abord, je vais d'abord faire une introduction historique, mettre le chapitre dans son contexte historique, parce que c'est important de comprendre. Et puis ensuite, on va l'étudier plus en détail. Donc, à titre d'introduction, donc tout d'abord, quel est le contexte historique donc de ce chapitre Ésaïe 33 qu'on lira donc après, hein. On va d'abord regarder le contexte historique. Donc Ésaïe, c'est un livre prophétique qu'on coupe généralement en deux morceaux, donc une première partie qui va des chapitres 1 à 39 et une deuxième partie qui va des chapitres 40 à 66. Donc Ésaïe, le prophète Ésaïe, il écrit entre environ 740 et 700 avant Jésus-Christ, et d'ailleurs donc on voit dans le chapitre 7, il parle au roi Achaz, donc le roi Achaz qui était le roi de Juda, qui a régné entre 731 et 715 avant Jésus-Christ, et ensuite son fils Ézéchias, qui fait l'objet des chapitres 37 à 39, et avec qui également donc Ésaïe parle, il a régné jusqu'en 687 avant Jésus-Christ. Donc en fait, Ésaïe, il a prophétisé sur une longue période d'environ une quarantaine d'années. Donc cette époque, sur le plan géopolitique, elle est marquée par la domination d'une très grande puissance, la Syrie. Donc la Syrie, c'est un royaume qui est établi aux environs de ce qu'est actuellement le nord de l'Irak actuel, le sud de la Turquie, pas très loin de la ville de Mossoul actuellement. Vous entendez parler de Mossoul. Donc voilà, c'était dans ce coin-là qui était la capitale de la Syrie, qui était une très grande puissance. La Syrie, quelque temps avant, en 720 avant Jésus-Christ, avait mis fin au royaume du nord, donc le royaume d'Israël. Donc vous savez qu'Israël était divisé entre le royaume de Juda au sud, le royaume d'Israël proprement parlé, donc le royaume du nord. Et donc la Syrie avait envahi le royaume du nord, avait emmené les gens en captivité, avait pris la capitale de Samarie. Donc ceci est décrit dans le chapitre 17 du livre du deuxième livre des rois, et la parole de Dieu explique que la Syrie avait été un châtiment contre Israël de Dieu à cause de son péché. Donc le roi Achaz, donc roi de Juda, le roi Achaz, roi de Juda, donc qui est à partir de 731. Donc cet homme-là ne fit point, nous dit la parole, ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Deux Chroniques 28. Son règne était marqué par une grande idolâtrie. La parole dit qu'il brûla ses fils à des divinités païennes, qu'il avait relâché tout frein en Juda, qu'il sacrifia aux dieux de Damas, qu'il ferma les portes de la maison de l'Éternel, donc les portes du temple, qu'il fit des hauts lieux dans chaque ville de Juda pour faire des encensements à d'autres dieux, donc brûler de l'encens à d'autres dieux. Et à cause de son attitude, la parole dit que l'Éternel abaissa Juda. Ainsi, Achaz essuya des défaites militaires contre les Syriens, contre le royaume d'Israël, contre les Édomites et contre les Philistins. Et donc, devant toutes ces difficultés, Achaz chercha le soutien de la Syrie, soutien militaire, donc la grande puissance du Nord-Est. Il fit des présents au roi d'Assyrie, en dépouillant la maison de l'Éternel, mais au lieu de le venir en aide, la Syrie l'opprima. Donc ça, c'est le roi Achaz, et il règne jusque 715 avant Jésus-Christ. Ensuite vient son fils Ézéchias, donc il règne à partir de 715 jusqu'en 687, et donc Ézéchias, c'est un contraste frappant avec son père. Ézéchias, c'est un bon roi, c'est un roi réformateur qui va amener un changement spirituel complet dans le pays. Il va nettoyer le temple, il va rétablir le culte, là il va rétablir la Pâque, il va détruire les hauts lieux, il va même détruire le serpent, je crois qu'il s'appelait Néouchtan, qui était en fait le serpent d'airain que Moïse avait fait dans le désert et qui était devenu en fait un objet d'idolâtrie de la part du peuple. Le livre des rois nous dit de Ézéchias ceci: il mit son espérance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, il n'y eut point son pareil entre tous les rois de Juda qui le suivirent, non plus que parmi ses prédécesseurs. Donc, de Rois 18-15. Mais, malgré cela, la menace assyrienne n'est pas entièrement écartée, et vers 701 avant Jésus-Christ, donc 701 avant Jésus-Christ, le roi d'Assyrie de l'époque, qui s'appelle Sennachérib, va envahir le royaume de Juda. Toutefois, pas en totalité, il va jusqu'à Jérusalem, qui va assiéger Jérusalem sans pour autant la prendre. Et devant cette menace, Ézéchias a fait fortifier la ville, il a fait creuser un tunnel pour l'alimenter en eau, lequel tunnel d'ailleurs a été découvert par des archéologues et il est visible aujourd'hui, également les fortifications. Ézéchias, il a essayé, comme son père, il a essayé d'obtenir la paix avec Sennachérib en lui proposant de lui payer un tribut. Sennachérib lui a imposé un tribut de 300 talents d'argent, de 30 talents d'or, qui était une somme énorme, qu'Ézéchias paya en prenant l'or du temple. Mais Sennachérib continua quand même l'invasion. Donc les troupes assyriennes sont allées jusqu'à Jérusalem, ont fait le siège, et la Bible nous enseigne qu'en une nuit, la totalité de cette armée de 180 000 hommes a été détruite par l'ange de l'Éternel. Et donc cela est décrit au chapitre 36 et 37 du livre du même prophète Ésaïe, également dans le deuxième livre des Rois et le deuxième livre des Chroniques. Donc le contexte de notre chapitre, c'est ça. C'est un livre prophétique qui se passe juste avant cet événement historique et qui va nous parler de ça, en fait. Donc maintenant, on va lire le chapitre. Il faut que vous ayez ça à l'esprit, que le contexte historique, c'est finalement la menace assyrienne sur Jérusalem. Et donc, on va lire le chapitre. Je vous demande de bien vous concentrer en le lisant. De toute façon, on va l'étudier ensuite, morceau par morceau. Je relirai les versets. Mais concentrez-vous bien en l'écoutant. Ne soyez pas rebutés par le langage. Vous verrez en fait que tout ça est très clair. Mais on va l'étudier. Donc, chapitre 33, verset 1. Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin, comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus, comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut, il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté, la sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Voici, les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant. Le Saron est comme un désert, le Bazan et Carmel secouent leur feuillage. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples sont des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait, et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, à langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes, tes yeux verront Jérusalem, ces jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés et dont les cordages ne seront plus détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il nous tient lieu de fleuves, de vastes rivières, où ne pénètrent point des navires à rames. et que ne traverse aucun grand vaisseau. Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boîtes eux-mêmes prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Donc comme j'ai dit, c'est un texte prophétique, avec un langage qui est assez poétique et imagé. Il y a des aspects historiques, il y a des aspects de prédiction. Donc il faut faire un effort d'interprétation. Le texte aussi est un petit peu, je dirais, dans un ordre un peu pas nécessairement très clair. Donc on va essayer démêler les chevaux et de remettre les choses dans leur ordre et de comprendre le message qu'il y a derrière ce texte. Donc le thème principal, comme je l'ai dit, c'est le siège de Jérusalem par les Assyriens et la protection donnée par Dieu à son peuple. J'ai donc distingué 5 sous-thèmes dans ce chapitre. Donc notez-les bien, 5 sous-thèmes. Premièrement, la destruction du pays par les Assyriens, et elle se trouve essentiellement en versets 7 et 9. Donc la destruction du pays par les Assyriens en versets 7 et 9. Deuxième thème, la prière du peuple de Dieu devant cette menace. Et ça, ce sont les versets 2 et 3. Troisièmement, la réponse de Dieu à cette prière. Donc elle se trouve surtout au verset 10 à 13, mais également au verset 1 et au verset 4. Donc là, c'est la réponse de Dieu à cette prière. Quatrième thème, la réaction des hommes devant le jugement de Dieu. La réaction des hommes devant le jugement de Dieu, ce sont les versets 14 et 15. Et cinquièmement, la promesse de repos. Donc promesse de repos, donc c'est surtout les versets 16 à 24, toute la fin du chapitre, mais également les versets 5 et 6. Donc on va d'abord regarder le premier thème qui est la destruction du pays par les Assyriens, ce sont les versets 7 et 9. Je relis le passage. Voici, les héros poussent des cris au dehors, les messagers de paix pleurent amèrement, les routes sont désertes, on ne passe plus dans les chemins. Il a rompu l'alliance, il méprise les villes, il n'a de respect pour personne. Le pays est dans le deuil, dans la tristesse, le Liban est confus, languissant, le Saron est comme un désert, le Bazan et le Carmel secouent leur feuillage. Donc on voit ici des messagers de paix qui pleurent amèrement, et l'autre expression c'est des héros poussent des cris au dehors. Donc ces personnes, ce sont les ambassadeurs qu'Ézéchias a envoyés à Sennachérib pour négocier la paix en lui proposant de lui payer un tribut. Et en fait, le tribut, il est financé par l'or du temple. Rien que l'or du temple. Sennachérib a pris l'argent, mais peu lui importe. Le texte nous dit qu'il a rompu l'alliance. Il n'a de respect pour personne. Verset 8. En fait, Sennachérib, c'est un voyou. Il ne connaît que la force. Sa parole ne vaut rien. À peine a-t-il encaissé les 30 talents d'or et les 300 talents d'argent qu'il va mettre le siège à Jérusalem. Sennachérib est un homme brutal. Il amène la désolation sur la terre, dans la région fertile. Il y a un ensemble de régions qui sont citées comme le Saron. Il parle aussi du Bazan et du Carmel. Il parle du Liban. Les cèdres qui font la gloire du Liban sont, on le voit plus loin dans le chapitre 37, Dieu dit que ces cèdres sont coupés. Le texte nous dit aussi au verset 8 qu'il méprise les villes. Effectivement, Sennachérib a envahi les villes, notamment la ville de Lachish, qui était une ville de Juda, et il y a des bas-reliefs qu'on peut voir encore dans les musées où on voit comment les gens de ces villes ont été traités cruellement par Sennachérib. Il y a vraiment des scènes très brutales qui sont décrites dans ces bas-reliefs. Lors de cette invasion. Mais on peut voir maintenant, si on tire un parallèle par rapport à cette situation historique, on peut voir en Sennachérib une image du péché et de Satan. Ézéchias, je dirais que c'est un grand naïf. Il a commis la même faute que son père Akaz, exactement. Il a cru qu'il pouvait négocier avec Sennachérib en lui donnant de l'argent. Mais Sennachérib ne respecte rien. Sennachérib, il est comme Satan, il ne respecte rien. Il est le père du mensonge et un meurtrier. Cela fait penser à ces dirigeants de la Seconde Guerre mondiale qui ont tenté de négocier avec Hitler. Ils ont cru qu'ils pourraient négocier avec Hitler, comme Chamberlain en Angleterre ou Daladier en France ou Pétain après. Ils ont cru qu'on pouvait négocier avec Hitler, mais Churchill, lui, il avait compris qu'avec Hitler, on ne peut pas négocier. La seule solution, c'est de se battre jusque dans ses derniers retranchements. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est pareil avec le péché. Avec le péché, on ne négocie pas. Il n'y a pas de trêve, il n'y a pas d'armistice. On lutte contre lui pied à pied tous les jours de sa vie. Et le théologien anglais John Owen a dit ceci dans un livre qu'on a étudié il y a quelques années ici. Tuez le péché, ou bien il vous tuera. Pas de trêve ou pas d'armistice avec le péché tant que nous sommes dans ce corps. Ézéchias aurait mieux fait de garder son argent et de rester dans Jérusalem et de se préparer au combat en se confiant au Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait finalement. Mais il avait donné cet argent. On voit aussi dans le texte qu'on vient de lire une image de la dévastation du péché. Et il y a des plaines fertiles qui deviennent arides, qui sont transformées en désert, des magnifiques forêts de cèdres qui sont abattues. C'est la dévastation du péché. Le péché dévaste tout dans les vies, détruit tout. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, le deuxième thème, donc, est au verset 2 et 3, qui est la prière du peuple de Dieu devant cette menace. La prière du peuple de Dieu devant cette menace. Et voilà comment réagit le peuple de Dieu. Il dit, « Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. » Magnifique prière. Et voyez la confiance qu'elle exprime. « Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. » Et c'est comme s'il disait, « Il suffit que tu bouges ton petit doigt. » Cette prière fait écho à une magnifique prière aussi que fait Ézéchias en plein milieu du siège, donc qui est rapportée au chapitre 37. Et je cite donc un seul verset, il dit ceci, « Maintenant, ô Éternel notre Dieu, délivre-nous de sa main et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. » Et cette prière, c'est la prière de l'Église persécutée au travers des âges. C'est sans doute la prière de l'Église actuellement en Chine, où le régime de Xi Jinping ferme les églises les unes après les autres, détruit leurs bâtiments et emprisonne les leaders. On dit qu'il y a entre 50 et 150 millions de chrétiens en Chine. Et ce qu'on ne dit pas dans nos médias, c'est qu'ils sont terriblement persécutés, que leurs églises sont réellement fermées, qu'ils n'ont plus le droit de pratiquer leur culte. Et on peut parler de l'Algérie, du Nigeria, de la Corée du Nord et d'autres pays encore, où les chrétiens sont persécutés. C'est aussi la prière du chrétien devant le péché. Le verset 3 nous dit « Quand ta voix retentit, les peuples fuient. » Et ça fait penser au verset 4, au verset 7 du chapitre 4 de Jacques, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le diable est décrit ailleurs comme un lion dévorant, mais quand la voix de Dieu retentit, il s'enfuit. Il en est de même pour Sennachérib. Et c'est ce que nous voyons décrit donc dans le thème suivant, troisième thème, qui est la réponse de Dieu à la prière du peuple. La réponse de Dieu à la prière du peuple, elle se trouve au verset 1, verset 4 et les versets 10 à 13. Donc regardons d'abord le verset 1. Donc là, c'est Dieu qui parle et il dit ceci. « Malheur à toi qui ravages et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. » Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Ici, le Seigneur parle aux Assyriens. Il parle de ces ravages, de cette destruction qu'ils ont faite sur le pays. Le mot traduit « piller » dans notre version est traduit « agir perfidement » dans d'autres traductions. Notamment, je crois la traduction d'Arabie, en tout cas les traductions anglaises également, « agir perfidement ». Donc il dit « toi qui agis perfidement et envers qui on n'a pas agi perfidement ». Cela fait référence au fait que Sennachérib ait renié sa parole. C'est un traître, un tricheur. Il a renié sa parole en faisant le siège de Jérusalem, bien qu'Ézéchias avait payé le tribut. Ce verset que nous venons de lire, « Malheur à toi qui ravages », etc., il nous fait penser à Romains 12, 19, qui nous dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. » Quand on voit les injustices en tout genre qui sont commises de par le monde et où les hommes s'en tirent apparemment sans problème, peut-être c'est ce que disaient les gens qui étaient assiégés devant cette injustice de Sennacherib, ils se demandent où est la justice de Dieu. C'est le thème du psaume 73 où le psalmiste est dans la perplexité devant ce qu'il appelle le bonheur des méchants, mais il réfléchit, il revient à son bon sens et il dit « La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. » Psaume 73, 16 à 18. Sennacherib était plein d'orgueil, de l'orgueil de cette victoire et de sa violence. Il était sans doute très fier du mauvais tour qu'il avait joué à Ézéchias. Tout cet orgueil se ressent dans le discours d'un de ses généraux, Rabshakeh, qui est rapporté au chapitre 37, lorsque cet homme vient voir Jérusalem et leur parle avec arrogance et mépris. Mais Dieu voit tout ça et il ne laissera pas ces choses impunies. La justice de Dieu s'exercera. Celui qui est ravagé sera ravagé. Celui qui pille sera pillé. Et comme le dit Exode 34, l'Éternel ne tient point le coupable pour innocent. Les versets 10 à 13 décrivent ce châtiment que Dieu va exercer sur le peuple d'Assyrie, sur l'armée d'Assyrie. Il le décrit de façon poétique en utilisant l'image du feu qui détruit la paille. Je relis versets 10 à 13. « Maintenant je m'élèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. » Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Dans ces versets, on voit à nouveau le principe de rétribution. Vous avez conçu du foin, vous récolterez de la paille. Ce verset fait penser à un verset du prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 7. Puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. C'est d'ailleurs devenu un proverbe dans notre langue. Ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. C'est le principe de rétribution. Le foin et la paille dans la parole, c'est l'image de choses inutiles, qui n'ont pas de valeur quand on les compare au grain. C'est aussi des choses qui sont très combustibles, qui brûlent facilement. Sennacherib est très fier de ses victoires, mais tout ceci n'est que du foin et de la paille, tout juste bon à brûler dans le feu du jugement. Le mot traduit ici « souffle », lorsqu'il dit « votre souffle, c'est un feu qui vous consumera », en fait, il doit être entendu au sens du mot « colère ». C'est ainsi que Darby traduit ça. Il dit « Votre colère est un feu qui vous consumera ». Et c'est contre Dieu que Sennacherib est en colère. Dieu le lui dit en 37-28, Ésaïe 37, verset 28, « Tu es furieux contre moi. Et ceux qui persécutent l'Église de Dieu sont fondamentalement en colère contre Dieu. Et les dirigeants comme Jinping en Chine ou Kim Jong-un ou tous ces gens-là, ils sont en colère contre Dieu. » Et la colère de Sennacherib, elle a pour résultat la destruction de son propre peuple. Celle-ci est évoquée au verset 12 par cette image terrible où il dit que les peuples sont fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. En fait, ces peuples, c'est l'armée assyrienne. Et les fournaises de chaux, la chaux, c'est un produit qu'on retire de la combustion à très haute température du calcaire, de la roche calcaire dans des fours. Donc l'image est terrible. C'est ce qui va arriver sur ce peuple, sur cette armée, immense armée assyrienne de 185 000 hommes. Et c'est ce que nous lisons dans nous lisons le récit de ce jugement, ce dont Dieu parle dans ces versets-là. Ça s'est produit en Ésaïe 37, verset 36. « Un ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voilà, c'étaient tous des corps morts. » Le verset 4 de notre texte, de notre chapitre 33, il parle sans doute du peuple de Jérusalem qui vint ramasser le butin sur cette armée détruite. « On moissonne votre butin comme moissonne la sauterelle. On se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. » En fait, Dieu dit « Voilà, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez être détruits. Ils vont même aller piller piller en fait votre armée. C'est le châtiment qui leur a été imposé. Ils ont dû se lever le matin, les Israélites, voir cette armée détruite, et ils sont allés prendre leurs armes, prendre tout leur bagage. Remarquons aussi les versets 10 et le verset 13. Dans ces versets, Dieu qui parle toujours et qui dit « Maintenant je m'élèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. » Et au verset 13, il dit « Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. » Nous voyons que le Seigneur est exalté. Il est élevé. Il demande à ceux qui sont loin de contempler sa puissance. On doit comprendre que Dieu est exalté, c'est-à-dire qu'il est exalté, il est mis en hauteur lorsqu'il juge le mal et qu'il le détruit. Dieu est exalté parce qu'il fait le bien, Dieu est exalté parce que c'est un Dieu d'amour, mais Dieu est exalté aussi parce que c'est un Dieu de justice. Il tire gloire de la manifestation de sa justice et nous devrions nous en réjouir lorsqu'il punit le péché, car le péché d'homme arrogant et cynique comme Sennachérib, le péché des hommes méchants du psaume 73 sont une misère pour le monde. Et notre péché est une misère pour le monde. Le péché amène la destruction du monde. C'est pourquoi le psaume 96 appelle les hommes et la nature à se réjouir devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Donc on doit exalter l'Éternel pour sa justice, parce qu'il viendra à la fin des temps redresser les torts. Il y a des millions de gens dans le monde entier qui ont manifesté demandant qu'on redresse les torts. Dieu viendra redresser les torts de tout un chacun. Et aussi de ceux qui ont manifesté. Imaginez quelle a dû être la joie. Imaginez quelle a dû être la joie du peuple de Jérusalem ce matin lorsqu'ils ont vu cette immense armée détruite. Et comment ils ont glorifié le Seigneur. D'autant plus qu'ils ont eu un témoignage direct de son intervention par l'intermédiaire d'Ésaïe. Ils sont réveillés le matin, ou réveillés, ils ne dormaient certainement pas, mais ils ont vu cette immense armée détruite lorsque le soleil s'est levé. Et ils ont vu que c'était Dieu qui l'avait fait. Et aussi quelle dut être leur consternation. C'est le thème du... Le quatrième thème de notre chapitre, versets 14 et 15. Verset 14... Donc c'est la réaction des hommes devant le jugement de Dieu. La réaction des hommes devant le jugement de Dieu. Les pécheurs, nous dit le verset 14, seront effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Alors on a ici des pécheurs et des impies qui sont dans Sion et qui sont effrayés. Sion, c'est un autre mot pour eux, un autre nom pour Jérusalem. Ces personnes donc sont donc des personnes qui sont assiégées. On peut se demander, est-ce que c'était des gens qui étaient effrayés par la perspective de leur propre mort avant que les Assyriens ne soient détruits, ou bien des gens qui ont été effrayés par la puissance de l'intervention du Seigneur elle-même. Et c'est probablement la deuxième chose, ils ont été effrayés par la puissance de l'intervention, parce qu'en fait le verset 14, il se lit directement avec le verset 13, qui dit que Dieu doit être exalté à cause de cela. L'intervention du Seigneur a dû être tellement spectaculaire, une chose tellement inouïe, qu'il n'était pas possible de l'attribuer à des causes naturelles, même si les causes naturelles sont aussi entre les mains du Seigneur, au passage. Mais là, ils ont compris qu'ils étaient devant un miracle avéré. Une manifestation terrifiante du jugement de Dieu. Et là, ils voient ça, et ils pensent aux flammes éternelles. Et certainement que l'Esprit Saint utilise cet événement pour agir en eux et les toucher par une profonde conviction de leur propre péché et leur faire comprendre à quel point ils ne sont pas préparés à rencontrer l'Éternel. Chaque fois qu'une personne meurt dans une famille et que nous savons que ses proches ne sont pas croyants, les chrétiens prient. Ils ne prient pas pour la personne qui est morte parce que son sort est scellé lorsqu'elle meurt. Mais ils prient pour ses proches afin qu'ils prennent conscience que, comme dit la parole, toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et ce passage que nous étudions, nous montre que cette intervention miraculeuse du Seigneur pour sauver Jérusalem, elle est gracieuse pour deux raisons. Cette intervention du Seigneur est gracieuse pour deux raisons. D'abord parce qu'elle délivre Jérusalem de la destruction imminente physique aux mains des Assyriens, mais aussi parce qu'elle sert de signal, de cri d'alarme, de réveil envers les pécheurs pour les alerter sur la destruction éternelle de l'enfer. Chaque fois que le Seigneur envoie des calamités, comme par exemple notre fameux virus, il y a également un élément gracieux pour ceux qui en réchappent, parce que ces calamités les alertent sur le monde, elles alertent le monde sur le jugement à venir. Et donc ces pécheurs, ils sont dans Jérusalem, ils voient cette intervention du Seigneur et ils disent « c'est ça le jugement du Seigneur et c'est ça qui va m'arriver, parce que je suis un pécheur, un impie ». Et ils réfléchissent à cette question « qui de nous pourra résister aux flammes éternelles ?» Qui de nous pourra résister aux flammes éternelles ? Et nous pourrions aussi nous poser la même question « qui de nous pourra résister aux flammes éternelles ?» Et la réponse qui revient à l'esprit, à ces pécheurs, elle n'est pas là pour les rassurer, je dirais. Voilà ce qu'ils disent. Voilà les descriptions de ceux qui peuvent résister aux flammes éternelles. Regardons-le avec attention. La personne qui peut résister aux flammes éternelles, c'est celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal. J'ai dit que cette réponse, elle n'est pas faite pour rassurer les pécheurs. Ça comprend chacun d'entre nous. Car personne ne peut dire la tête haute parmi nous, je marche dans la justice et je parle selon la droiture. Qui de nous peut se lever et dire, oui, moi, je marche dans la justice et je parle selon la droiture. Le passage cite ensuite plusieurs péchés, des péchés d'extorsion ou de corruption, des péchés de prêter attention au mal avec nos oreilles ou avec nos yeux. Ce passage n'est pas unique dans l'Ancien Testament. Je pense au psaume 15, il y en a d'autres, il y a plusieurs autres psaumes qui sont très similaires, où effectivement la question est posée, qui pourra résister, et il y a une liste de choses qui sont données, par exemple le fait de ne pas calomnier, de ne pas parjurer, etc. Il est impossible que nous prétendions répondre parfaitement à la description du verset 15, ou même imparfaitement. Je pense qu'Ésaïe lui-même n'avait pas cette prétention, parce qu'Ésaïe, au chapitre 6 de son livre, il est confronté à la sainteté de Dieu, et il s'est écrié qu'il était perdu car il était un homme impur. Ésaïe lui-même s'est écrié cela. Ésaïe aussi, comme ses pécheurs, il s'écrit « qui de nous pourra résister aux flammes éternelles ?» Et nous voyons d'ailleurs que le dernier verset du chapitre que nous étudions nous dit que le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de son iniquité. Ça veut dire que le passage ne prétend pas que le peuple de Jérusalem était d'une façon ou d'une autre pur. Mais le passage nous dit que les hommes sont sauvés non pas à cause de leurs œuvres, mais à cause du pardon de leur iniquité. Pardon qui sera acquis 700 ans plus tard par Jésus-Christ lors de sa mort sur la croix. Alors comment devons-nous comprendre ce verset 15? N'y a-t-il personne qui puisse résister aux flammes éternelles? N'y a-t-il personne qui puisse échapper au châtiment de l'enfer? Je pense que l'étude que nous avons faite récemment dans Galates 5 nous donne un élément de réponse. Dans Galates 5, 19 à 21, nous avons une liste d'un ensemble de péchés. Il est dit que si nous les pratiquons, nous n'hériterons pas du royaume de Dieu. Mais Galates 5, verset 16, nous dit de marcher selon l'esprit. Et ici, le passage nous dit de marcher selon la justice. Je pense que c'est proche. Éphésiens 4, 1 nous dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Je conclue que ce verset 15 décrit les résultats de l'œuvre de la sanctification. La personne qui est décrite au verset 15, c'est quelqu'un qui est dans la sanctification et qui, par la sanctification, produit ses fruits. Et si ce qui est dit dans ces versets ne nous caractérise aucunement, si nous ne sommes pas parvenus en partie, ou si nous n'avons pas de tout notre cœur le désir d'y parvenir, alors cela veut dire que l'Esprit de Dieu n'agit pas en nous, que nous ne sommes pas des chrétiens, et que nous ne sommes pas des nouveaux, et que nos iniquités ne sont pas pardonnées. C'est un des nombreux passages de la Bible qui montre que, pour reprendre la formulation des réformateurs au XVIe siècle, le salut est par la foi seule, mais pas une foi qui est seule. C'est-à-dire que la vraie foi qui sauve s'accompagne d'œuvres. Le salut est par la foi seule, mais pas par une foi qui est seule, une foi qui produit des œuvres. Des œuvres qui sont non pas la cause du salut, mais leur conséquence. Mais si vous êtes repris vous-même par ce passage, et si vous êtes terrifié, vous demandez « comment pourrais-je subsister auprès des flammes éternelles ?» Si le verset 15 ne vous décrit pas, en tout cas un tout petit peu, alors tournez-vous vers Christ. La seule solution, c'est de se tourner vers Christ. Si l'Esprit-Saint vous a fait la grâce de mettre en vous une conviction de péché, alors tournez-vous vers Christ. Mettez votre foi en lui et recevez sa justice, car lui, il a respecté ce verset parfaitement. On arrive au cinquième et dernier thème de ce chapitre, le thème de la promesse de repos. Donc comme j'ai dit, c'est surtout les versets 16 à 24, et également, je pense, les versets 5 et 6. Donc je vais le lire à nouveau. Donc versets 5 et 6. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Et puis ensuite, les versets 16 à 24. Donc le verset 16, il est connecté au verset 15. Et donc, on a vu au verset 15 la description de celui qui pratique, qui marche dans la justice, etc., etc. Et là, on nous dit ce qui va arriver à cette personne, qui est donc en fait un chrétien. Tout ce qui va des versets 16 à 24 décrit le sort, je dirais, promis aux chrétiens. Celui-là habitera dans des lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Ton cœur se souviendra de la terreur. Où est le secrétaire? Où est le trésorier? Où est celui qui inspectait les tours? Tu ne verras plus le peuple audacieux, le peuple au langage obscur qu'on n'entend pas, la langue barbare qu'on ne comprend pas. Regarde, Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, ses jours tranquilles, tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. Il tient lieu de fleuves, de vastes rivières où ne pénètrent point de navires à rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Tes cordages sont relâchés, ils ne serrent plus le pied du mât et ne tendent plus les voiles. Alors, on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Donc ces versets sont très riches et je pense qu'ils peuvent parler de trois choses. Tout d'abord, le repos du peuple d'Israël après la délivrance miraculeuse des Assyriens. Et certainement, dans un sens, c'est le cas. Mais il y a beaucoup plus que cela. Parce que le langage très imagé dépasse largement le repos historique de la Jérusalem historique. En fait, 15 ans après ces événements, Jérusalem retomba dans l'idolâtrie avec Manassé. Et puis 100 ans après ces événements, Israël fut détruite par Babylone. Alors qu'ici, le texte semble parler d'un repos beaucoup plus long, un repos pour toujours. Deuxièmement, deuxième possibilité d'interpréter ce passage, c'est le repos spirituel du peuple de Dieu sous la protection de l'Éternel dans la vie présente. Et c'est vrai que souvent, traditionnellement, les chrétiens ont interprété le nom de Sion comme désignant le peuple de Dieu. Vous en entendez souvent dans des cantiques anglais notamment, Zion, Sion, c'est le peuple de Dieu. Et enfin, troisièmement, dans ce passage, il y a une annonce du repos éternel dans la Jérusalem céleste. Car il est vrai que le nom de Sion désigne également la Jérusalem céleste. Ainsi, en Hébreux 12, 22, on lit « Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. » Donc, je voudrais insister particulièrement sur le deuxième sujet, c'est-à-dire le fait que ce passage décrit le repos spirituel du peuple de Dieu sous la protection de l'Éternel. C'est-à-dire le repos spirituel de l'Église, l'assemblée du peuple de Dieu, sous la protection de l'Éternel, dans la vie présente. Et quand vous regardez ces versets, et on ne va pas les regarder en détail, ce serait trop long, mais il y a deux thèmes forts qui ressortent. Deux thèmes forts qui ressortent, qui sont le thème de la paix et le thème de notre relation avec l'Éternel. Le thème de la paix. Donc d'abord le thème de la paix, la stabilité, la sûreté, l'absence de menaces, est omniprésent dans ce passage. Vous le voyez à peu près dans tous les versets. Par exemple, verset 6, « Tes jours seront en sûreté ». Au verset 16, le chrétien est nourri et désaltéré. Il habite des rochers fortifiés. Au verset 18 et 19, il est délivré de la terreur que lui causait cette armée assyrienne, qu'ils appellent des hommes, ce peuple au langage obscur, à la langue barbare. Et il est délivré aussi, cette armée assyrienne est une image de l'angoisse du péché et de Satan. Il en est délivré. Il est possible que le verset 23, qui parle des cordages relâchés, parle aussi des Assyriens, les comparant à un navire qui ne peut plus opérer parce que ses cordages sont relâchés. Et il est, comme on le voit, il est livré au pillage. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Au verset 20, le séjour de Jérusalem est tranquille. La tente n'est plus déplacée, elle n'est plus transportée. C'est une image de stabilité. C'est plus comme le tabernacle du désert qui bougeait d'endroit en endroit. Maintenant, la tente est plantée à un endroit bien précis, c'est Jérusalem. Au verset 21, il parle de navires de guerre qui ne peuvent pas pénétrer sur le fleuve. À nouveau, il y a cette image de paix et de sécurité. Donc, premier thème que je vois partout dans ces versets, qu'on voit partout dans ces versets, et ce qui est promis au peuple de Dieu, c'est la paix et la sécurité. Et pourquoi ? Parce qu'il y a la relation avec l'Éternel. Il y a le thème de l'Éternel. Il est fait mention de l'Éternel 8 fois dans ces versets. Verset 5, il est élevé, il habite en haut, il remplit Sion de droiture et de justice. Verset 17, il est ce roi que nous verrons de nos yeux. Nous verrons l'Éternel de nos yeux. Verset 21, il est magnifique pour nous. Il est ce fleuve dont il est dit de lui qu'il est un fleuve. Si vous regardez, il nous tient lieu de fleuve, de vastes rivières. Et en fait, dans le psaume 46, qu'on a étudié il y a quelque temps, il est dit qu'il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. C'est l'Éternel. Il est notre juge, notre législateur et à nouveau notre roi au verset 22. Et il est dit dans ce verset également textuellement qu'il nous sauvera. Et c'est traduit comme ça dans toutes les traductions. Il nous sauvera. Donc, la paix est une paix qui est apportée par l'Éternel, qui est promise au peuple de Dieu. Maintenant, si on prend un peu de recul et pour conclure sur ce passage, sur ce chapitre, on voit dans ce chapitre deux choses. Il y a une histoire qui nous a raconté. C'est l'histoire de la protection miraculeuse de Jérusalem lors de l'invasion des Assyriens. Ça, c'est l'histoire qui nous a raconté. L'événement historique qui s'est produit dans l'histoire et qui est le résultat de Dieu, qui est de l'œuvre de Dieu. Et puis, il y a ensuite une application. Donc, l'histoire, Ézéchias est un bon roi, pas un homme parfait, mais un des meilleurs, et c'est sans nul doute un homme de Dieu. Sennachérib s'attaque à lui d'une façon satanique, qui est pleine de brutalité et de perfidie. On n'est pas dans la situation de Jérusalem quelques cent ans plus tard, où Dieu envoie Babylone contre Jérusalem, intentionnellement, comme un châtiment, et leur dit qu'ils doivent se rendre. Ici, au contraire, Dieu défend Jérusalem. C'est l'image du peuple de Dieu qui est persécuté injustement. Et que se passe-t-il ? Dieu prouve son amour pour son peuple et le délivre miraculeusement. Donc ça, c'est l'histoire qui nous est racontée. Et ensuite vient l'application que nous avons vue à la fin du chapitre. Et cette application, elle démontre en abondance, d'une part, la paix du peuple de Dieu, et d'autre part, l'auteur de la paix, c'est-à-dire l'Éternel. C'est un message constant dans le livre d'Ésaïe que nous retrouvons dans le verset célèbre en 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et c'est un message pour nous. C'est un message pour nous, le peuple de Dieu, si du moins nous sommes tels que les chrétiens décrivent verset 15. C'est un message pour nous. Ce chapitre est un message pour nous. Un message de paix, au sens où Dieu nous donne cette paix. Et nous sommes certainement inquiets. Les chrétiens et tous les hommes sont naturellement inquiets Nous sommes certainement inquiets à cause du virus, à cause du travail, à cause de la crise, pour nos enfants, pour notre santé, pour savoir si nous pourrons financer la Salle Sarcelles, pour l'œuvre missionnaire, pour l'Église, pour tout un ensemble de choses. Et puis il y a des gens dans les pays comme la Chine, comme j'ai cité, ou Corée du Nord, ou Algérie, ou d'autres pays où les gens sont persécutés, et leur inquiétude est encore plus grande. Mais Dieu nous répond, chrétien, ne crains rien. Je suis avec toi. Regarde comment j'ai traité les Assyriens. C'est ça le thème de ce message. Dieu nous dit, prenez confiance en Dieu. Même dans les situations extrêmes, la situation où étaient les Assyriens, les Juifs dans Jérusalem, assiégés par les Assyriens, Dieu est intervenu. À la dernière minute, en quelque sorte, mais il est intervenu. Et nous sommes peut-être inquiets aussi pour notre salut. Nous sommes peut-être inquiets pour notre salut. Beaucoup de chrétiens le sont. Mais Dieu nous dit, et je conclurai là-dessus, il nous dit, le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui nous rassure. Merci, Seigneur, de nous montrer comment tu aimes ton peuple, comment tu le protèges, comment tu es exalté, Seigneur, par l'exercice de ta justice, de ton jugement, comment tu es exalté, Seigneur, pour ton amour pour ton peuple. Seigneur, puissions-nous faire nôtre les promesses qui sont dans ce passage, si du moins, Seigneur, nous t'appartenons et nous marchons dans la justice, comme dit le verset 15. Nous marchons selon l'Esprit. Puissent ces promesses être des promesses pour nous, Seigneur, et puissent-elles réchauffer notre cœur, nous apporter réconfort. Et en particulièrement, puisses-tu les faire surgir dans notre cœur le jour, Seigneur, où nous serons dans l'affliction, peut-être même dans la persécution. Nous prions en particulier, Seigneur, pour ces peuples qui sont au milieu de la fournaise aujourd'hui, de la persécution, dans ces pays que j'ai cités. Puisses-tu, Seigneur, leur faire venir ces versets à l'esprit de la paix, de la stabilité, de la protection que tu leur donnes. Et Seigneur, s'il y a parmi nous des personnes qui ont été reprises par ce passage, qui ont, comme les pécheurs de Jérusalem, pris peur devant les flammes éternelles, puisses-tu toucher leur cœur et leur donner de tourner leur regard vers celui-là seul, qui est la solution de leurs problèmes, et le remettre contre leur péché, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour laver le péché de son peuple. Je te prie, Seigneur, en ce nom de Jésus. Amen.